Radio Prague, les informations.
6 ans de prison pour l'ancienne procureure Ludmila Brožová-Polednová. Le député Jan Morava sera remplacé au Parlement tchèque par Miroslav Jeník. Václav Havel à la conférence internationale sur la sécurité en Asie. Ce mardi a eu lieu à Plzeň le jugement en appel de l'affaire de l'ancienne procureure Ludmila Brožová-Polednová qui avait participé à la condamnation à mort de la politicienne Milada Horáková dans les années 1950. En raison de l'état de santé et de l'âge de Ludmila Brožová-Polednová, les juges de la Cour suprême se sont déplacés à Plzeň. Leurs délibérations ont conduit à la prononciation d'une peine de détention de 6 ans pour la prévenue. Le député Jan Morava du Parti civique démocrate sera remplacé dans la Chambre des députés tchèques par le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, Miroslav Jeník. Jan Morava a annoncé lors d'une conférence de presse ce lundi qu'il allait renoncer à son mandat de député. C'était sa réaction à un reportage diffusé par la télévision Nova, selon laquelle Jan Morava cherchait à rassembler des informations compromettantes sur certains députés. À la conférence internationale sur les défis de la sécurité en Asie, l'ancien président tchèque Václav Havel a déclaré que la Russie et la Biélorussie sont dirigées par de nouveaux régimes autoritaires sophistiqués qui sont nés ces dernières années. D'après lui, les démocraties occidentales ne devraient pas craindre de dire ce qui ne leur plaît pas dans ces régimes. Le premier ministre tchèque Mirek Topolánek effectue une visite de 2 jours en Croatie. Après sa rencontre avec son homologue croate Ivo Sanader, il a déclaré à une conférence de presse que l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne serait l'une des priorités de la future présidence tchèque de l'Union européenne et que la Tchéquie soutenait aussi l'entrée de la Croatie dans l'OTAN. Le parti chrétien démocrate tchèque ADU ČSL, membre de la coalition au pouvoir en République tchèque, a critiqué la campagne gouvernementale pour la présidence tchèque de l'Union européenne. L'objectif de la campagne est d'éveiller l'intérêt de la population pour la présidence tchèque de l'Union. C'est surtout le slogan principal de la campagne, ambigu et difficilement traduisible, qui fait l'objet de la critique des chrétiens démocrates. Les recettes du tourisme en République tchèque ont augmenté au cours de la première moitié de cette année de 3,5% et ont atteint 65,4 milliards de couronnes, quelque 2,7 milliards d'euros. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Daniela, Daniel, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été variable et les températures diurnes se sont situées entre 21 et 25 degrés. Mercredi, le temps en République tchèque sera nuageux à variable avec des averses sur l'ouest du pays. Les températures diurnes varieront de 22 à 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Une affaire de chantage fictive dans laquelle sont impliqués certains membres du principal parti de la coalition gouvernementale ODS, Parti civique démocrate, secoue la scène politique du pays. Nous vous expliquerons de quoi il en retourne au début de cette émission. La seconde affaire dont nous parlerons n'est pas en revanche de fraîche date. Elle concerne 2 scientifiques entomologistes tchèques qui demeurent détenus depuis plus de 2 mois en Inde et qui risquent d'assez lourdes peines de prison pour avoir collecté des insectes dans un parc national. Nous céderons ensuite la parole à un photographe tchèque amoureux des régions de France. Et Jiří Slavíček nous téléphonera de Paris pour vous inviter à l'exposition consacrée au grand artiste tchèque Jiří Kolář. L'affaire qui secoue la scène politique cette semaine pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de l'actuel gouvernement. Le parti ODS du Premier ministre est concerné au premier plan par les révélations d'un reportage télévisé sur les pratiques mafieuses dans les coulisses de la politique tchèque. La première tête est tombée lundi, dès le lendemain de la diffusion du reportage par TV Nova. Un jeune député de 29 ans, Jan Morava, a démissionné. Plus de détails sur cette affaire avec Alexis Rosenzweig.
Oui, alors au départ, c'est un journaliste de TV Nova, la station privée, qui propose à un député de l'ODS en rupture avec sa hiérarchie, Vlastimil Tlousti, de poser pour des photos en compagnie d'une femme dans un jacuzzi, pour ensuite proposer ses clichés à ses collègues qui pourraient les utiliser éventuellement pour se débarrasser de ce député rebelle. La manœuvre fonctionne et c'est un jeune poisson qui mord à l'hameçon, Jan Morava, député ODS ambitieux, qui confie lui-même être là où il est, pas parce qu'il élabore des normes législatives exceptionnelles, mais parce qu'il sait obtenir des informations. Tout a été enregistré grâce à une caméra cachée. Les procédés employés par les journalistes qui ont provoqué Morava sont critiquables et critiqués, mais le discours de ce jeune aux dents plus longues que son 4x4 pourrait être assez révélateur du niveau actuel de la politique tchèque, où on semble s'inspirer des méthodes de la Cosa Nostra sicilienne ou de l'Organizzazione russe. Voici un extrait de ce qu'a déclaré Jan Morava en annonçant sa démission à la presse.
J'ai cédé aux provocations qui ont été sans l'ombre d'un doute orchestrées par Vlastimil Tlousti. Et c'est à lui de prendre les décisions qui le concernent s'il veut avoir la conscience en paix.
Jan Morava a été provoqué, certes, mais dans le reportage, il indique clairement avoir reçu l'aval de ses chefs et notamment du président du groupe ODS à la Chambre des députés, Peter Tluchoj. Celui-ci nie évidemment les faits. Pire, Jan Morava ne s'est pas arrêté à ces photos qui pouvaient permettre de faire taire un des critiques les plus virulents du gouvernement. Croyant avoir affaire à des détectives privés, il a demandé aux journalistes de le photographier en compagnie de la fille d'une des députées du Parti des Verts, Olga Zubova, elle aussi critique envers le gouvernement. Le but de cette manœuvre aurait été de faire savoir à cette députée que sa famille pouvait être facilement menacée si elle ne votait pas comme il fallait. Des révélations d'autant plus troublantes que c'est cette même députée qui s'est fait porter pâle le jour de l'élection très serrée du président de la République. Alors l'opposition social-démocrate a indiqué qu'un nouveau vote de défiance allait être organisé après les élections régionales de la mi-octobre. Sans les voix de Vlastimil Tlousti et d'Olga Zubova, la coalition n'aura pas de majorité. L'affaire Morava pourrait donc être l'affaire de trop pour le gouvernement de Mirek Topolánek.
Après avoir passé un mois dans la prison de Darjeeling en Inde et avoir été relâché sous caution, deux entomologistes tchèques ne sont toujours pas sortis d'affaire. La cour locale les a reconnus coupables. De quel crime et pourquoi ? Détail de cette affaire quelque peu surprenante par Alain Slivinski.
Alors que les deux entomologistes tchèques comptaient déjà faire leurs valises et rentrer au pays, la cour de Darjeeling, chef-lieu du Bengale occidental, en a décidé autrement. Elle a reconnu Peter Schwacha et Emil Kuchera coupables d'avoir violé la loi en collectant des insectes. Une décision de la justice indienne qui constitue une mauvaise surprise dans les milieux diplomatiques et scientifiques. Pour l'un des entomologistes, Peter Schwacha, l'accusation ne tient pas la route. Il explique pourquoi.
Dès le début, nous avons avoué que nous avons collecté des insectes en Inde sans permission, pour la simple raison que nous ne connaissons pas les termes de la loi de 2001 qui s'intitule Biological Diversity Act, qui interdit de collecter quoi que ce soit en Inde et concerne même les citoyens indiens. Si nous avions été jugés selon cette loi, mais cela n'a pas été le cas, nous n'aurions pas pu nous défendre. Par contre, nous avons été jugés en vertu de la loi intitulée Wildlife Protection Act, et dans ce cas, nous pensons que les accusations portées contre nous ne sont pas fondées.
Pour échapper à une éventuelle peine de prison, pouvant aller de 3 à 7 ans, les entomologistes devront faire appel et en dernier recours présenter une demande de grâce. Les milieux scientifiques ne sont pas indifférents à la mauvaise tournure prise par l'expédition des deux chercheurs tchèques. six biologistes indiens prennent aussi leur parti dans le magazine Current Science, où ils écrivent que ce qui est arrivé à Petar Shvaja et Emil Kuchera peut arriver à n'importe quel chercheur en Inde. Ils y affirment que la bureaucratie locale met sérieusement en danger la liberté scientifique dans le pays. La loi citée par Petar Shvaja n'interdit pas seulement la collecte d'espèces qui ne sont même pas protégées, mais aussi l'exportation de toute information biologique, ce qui isole complètement la biologie et la zoologie indienne du reste du monde. L'affaire a aussi été évoquée lundi lors de la rencontre du chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, avec son homologue indien Anand Sharma, en visite à Prague. Ce dernier a affirmé que l'Inde est une démocratie où la justice est indépendante du gouvernement. Le verdict de la Cour doit être respecté et ce n'est qu'ensuite que la diplomatie indienne utilisera tous les moyens juridiques pour que les deux entomologistes tchèques puissent rentrer dans leur patrie. Une affaire à suivre.
Depuis le 5 septembre, tous les vendredis vers 17h, la deuxième chaîne de la télévision publique tchèque propose des documentaires consacrés à des régions de France. Une série de 16 épisodes d'une vingtaine de minutes qui met l'accent notamment sur les liens qui unissent France et République tchèque depuis des siècles. Le réalisateur Ivan Fučík et son équipe sont allés à la pêche aux choses connues et moins connues de la grande et de la petite histoire. Un hobby qui passionne Ivan Fučík depuis qu'il se rend en France régulièrement. Anna Kubišta.
Cela fait des années que je m'intéresse à ce sujet. C'est une petite passion personnelle. J'essaye de lire le plus de documents possibles, de types différents, parce qu'il n'existe pas d'ouvrage qui synthétise toutes les informations. Je me suis donc dit qu'il fallait que je rassemble le plus d'informations possible.
Évidemment, les liens qui unissent la Bourgogne à la Bohême sont connus de tous les tchécophiles français et des francophiles tchèques. Ivan Fučík ne pouvait pas ne pas les rappeler, mais il relève aussi la très grande proximité de destin de l'Alsace et de la Bohême, par exemple, avec Charles IV, fondateur de la décapole médiévale, Charles IV qui rapporta aussi une relique de Sainte-Odile, patronne de la région, ou encore le frère de l'architecte Peter Parler qui travailla sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg, ou encore les députés tchèques qui, au XIXe siècle, protestèrent à Vienne contre l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. Ne manquent pas non plus à ces documentaires les grandes figures de l'amitié franco-tchèque telles qu'Ernest Denis, mais Fučík aime à rappeler que certains sont malheureusement aussi tombés dans l'oubli.
Louis Léger, par exemple, est tombé dans l'oubli. C'est un historien, un prédécesseur d'Ernst Denis. Il est venu à Prague, fréquentait František Palacký, il a même appris le tchèque. C'était un grand polyglotte, un slavophile. C'est Jaroslav Rychlický qui lui a appris le tchèque. Malheureusement, tout le monde l'a oublié, bien qu'on lui doive un monument, la croix de Bohême, sur le lieu de la bataille de Crécy.
Eh oui, ceux qui connaissent Prague ne s'y seront pas trompés, ce n'est pas d'un monsieur Léger à l'allemande, mais bien de Louis Léger dont il s'agit dans le nom attribué à la grande artère pragoise Légerova, malgré la prononciation déformée. On devra donc dire maintenant Légerova. De l'Alsace à la Bretagne, en passant par la Champagne, le Languedoc, les 16 épisodes de l'émission de la TCT2 tentent de répondre à une des questions qui agitent Ivan Fučík. Qu'est-ce qui fait que la France attire toujours autant? Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle est la destination touristique phare dans le monde. Je lui ai demandé si, après avoir réalisé ses documentaires, il avait trouvé une réponse.
En fait, c'est naturel. Qu'est-ce qui fait qu'une femme nous séduit? Vous savez, parfois, c'est tout simplement un coup de foudre. Quand vous allez là-bas, soudain, vous êtes juste émerveillé. Cela vous prend au cœur et ça ne vous lâche plus. Et on finit par s'y sentir comme chez soi.
C'était Ivan Fučík, le réalisateur de la série de documentaires consacrés aux régions de France. Les émissions sont diffusées sur la deuxième chaîne de la télévision publique tchèque tous les vendredis à partir de 17h05.
La galerie Le Long à Paris, située au 13 rue de Téhéran, abrite ces jours-ci une exposition consacrée à l'artiste tchèque Jiří Kolář. Selon Jiří Slavíček, qui a assisté au vernissage, c'était presque une fête de famille à laquelle il ne manquait que lui, sa frêle silhouette et surtout son sourire plein d'indulgence. Et il ajoute.
Jiří Kolář, natif de Protivín en Bohême du Sud, l'homme de plume, le peintre qui a su garder aussi bien chez lui en Tchécoslovaquie qu'à Paris, dans la ville qui lui a donné l'asile pendant des années noires, un esprit d'homme libre et surtout inventif. Jiří Kolář nous a quittés en 2002 à l'âge de presque 88 ans. Sa dernière exposition dans cette même galerie Les Longues remonte à 1992. La vingtaine d'œuvres de Jiří Kolář, surtout les collages réalisés pour la plupart à Paris, comme par exemple La Liberté en colère, qui sont exposés à la galerie Les Longues tout le mois de septembre, visent à remettre l'œuvre de Jiří Kolář toujours une valeur sûre et surtout, je cite, sans la moindre vulgarité, comme le disait le peintre Alechinsky, qui expose souvent dans cette même galerie, vise à rappeler la modernité persistante de la création artistique de Jiří Kolář. Son plus proche collaborateur parisien, lui-même peintre, éditeur de la revue K, Roman Kamesh, l'homme qui a assuré le vernissage, peut être satisfait. Si vous êtes à Paris pendant ce mois de septembre, venez vous-même au 13 rue de Téhéran à la galerie Les Longues vous en rendre compte. C'est enrichissant et pourtant gratuit. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
C'était donc les faits et événements en République tchèque, mais ne quittez pas les côtes car notre programme se poursuit.
73 de Radio Prague. Alain Slivinsky.
Alain Slivinsky est heureux de vous accueillir à l'écoute de l'émission destinée aux radio-écouteurs, à tous les amateurs des ondes courtes et de l'écoute des émissions internationales. Le micro est aujourd'hui à Roland Paget du Club Amitié Radio de Créteil.
Chers amis de Radio Prague, bonjour. Une nouvelle fois, quelques minutes ensemble pour un bref tour d'horizon de l'actualité qui est celle de notre activité, notre passion de l'écoute des radios internationales. Une chronique pour ce mois de septembre qui sera plus particulièrement dédiée à la littérature et plus particulièrement un ouvrage récemment publié en français sur les radios internationales. Alors c'est vrai que c'est toujours un événement, je dirais, car surtout en langue française, il est assez rare que un auteur ou un chercheur, un littéraire réalise un livre sur les radios internationales. Il y en a eu bien sûr par le passé. Certains étaient beaucoup plus ciblés sur un thème ou un autre par rapport à une situation ou des événements liés avec la radio internationale. Mais cet ouvrage est intéressant puisqu'il a été rédigé par un professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Jean Moulin à Lyon 3 en France, Bernard Vuillem, et membre du groupe de recherche et d'études sur la radio. Alors en matière de littérature, on connaît bien sûr les guides tels que le World Radio Handbook, le Passport to World Band Radio, ou bien encore les guides des stations utilitaires, le Shortwave Guide, Georg Klingenfuss. Mais il est vrai aussi qu'en langue anglaise, il existe des publications, des auteurs, des ouvrages sur bien la radio internationale, voire des magazines plus ou moins spécialisés. Malheureusement, en langue française, cela devient de plus en plus rare, ce qui est regrettable. Et donc, nous ne pouvons que nous féliciter lorsque un ouvrage paraît et surtout consacré à la radio internationale, les radios internationales, puisque c'est le titre de cet ouvrage, Les radios internationales, publié par l'éditeur Ellipse Marketing dans la collection Infocom, et l'auteur en est donc Bernard Vuillem. Et donc pour lui, eh bien, dans ce livre, la radiodiffusion internationale étant un média très peu étudié par l'universitaire, Or, ce média a rythmé l'histoire depuis sa création dans les années 30 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89, et puis bien entendu après, mais surtout pendant ces presque 60 années de radio internationale. Alors, il y a trois grandes périodes. L'ouvrage est séparé, disons, trois grandes périodes. Tout d'abord, eh bien, celle de 1930-1940, qui a été les grands débuts de la radio internationale. Puis, les années 40-45, la guerre des ondes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de 45 à 89, la période dite de la guerre froide. Cette période ayant été d'ailleurs le point d'orgue de la radio internationale. Et surtout, je dirais presque dans les années 60, mais surtout 70 et même encore années 80. Donc dans cet ouvrage, l'auteur a semblé utile de retracer ce parcours et de faire le point d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui sur l'utilité de ces radios d'État qui semblent tout à la fois inutiles à la fin d'un monde bipolaire et en même temps indispensables dans un monde toujours incertain. Les acteurs ont en partie changé. Mais les questionnements sont toujours les mêmes. La radio internationale, la radiodiffusion internationale, est-elle de la propagande aujourd'hui ou de l'information? Peut-être les deux, c'est la question qu'il pose dans cet ouvrage aussi. De plus, ce média, après un virage historique, vit maintenant un tournant technique avec l'arrivée des web radios et de la balado-diffusion dans un contexte numérique, et puis aussi la diffusion en numérique qui, malgré le temps qu'elle met à se mettre en place est tout de même aussi bien quelque chose à prendre en compte. Alors, quelle sera leur influence sur la radiodiffusion internationale? Eh bien, cet ouvrage tente d'y répondre. Donc, il est intéressant bien pour tous ceux qui s'intéressent à la radio internationale. Je pense que c'est un ouvrage qui aura son utilité et qui, historiquement, bien pour ceux qui veulent retrouver un peu l'histoire de la radio internationale, c'est un ouvrage que nous ne pouvons que conseiller, un ouvrage de 250 pages, donc qui est publié par les éditions Ellipse Marketing dans la collection Infocom, les radios internationales publiées, et donc écrit, rédigé par Bernard Willem. Voilà, bon, donc pour ce bref tour d'horizon, mais je pense que c'est toujours intéressant lorsque la littérature, dans le sens large du terme, s'intéresse à la radio internationale, d'en faire l'écho, et c'est donc un livre que nous recommandons. Il est temps de repasser le micro à nos amis de Prague. Je vous souhaite mes meilleures salutations radiophoniques, une très bonne écoute, profitez encore des conditions de propagation qui restent quand même favorables, même si l'activité solaire est encore à son plus bas niveau pour ce nouveau 24e cycle d'activité solaire observé. Il reste encore de bonnes opportunités, donc profitez-en. Donc pour cette chronique ce mois-ci, je vous souhaite mes meilleures salutations radiophoniques, une très bonne écoute et rendez-vous à très bientôt.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir écouté cette émission, j'espère bien, et qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir, à demain. Nasredano. Thank you.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.